Shabbos Kodesh. Yidel prepare for Shabbos Kodesh. Joy is in the air for Shabbos Kodesh. Everyone with a soul aflame to meet the Shabbos Kodesh. Everyone with a role to play to greet the Shabbos Kodesh. A priceless gift, a spiritual lift. Everyone finds a way to assist, do whatever they can do for the Shabbos.
Bonjour à tous, c'est très heureux de vous retrouver sur Radio Judaïka Strasbourg, comme tous les vendredis à 14h, pour le commentaire de la paracha par Avraham Arvein, le grand rabbin de Strasbourg. Et dit Baram, bonjour monsieur le grand rabbin.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va. Ah. Baruch Hashem.
Baruch Hashem. Nous allons lire demain deux parachutes, donc Shabbat Mechubarim, Béar et Bechukotai, l'allumage des bougies pour Strasbourg et sa région. Ce sera au plus tôt à 19h22 et au plus tard à 20h39. Et demain, la fin du Shabbat, à 21h46. Et nous avons lu hier le 36e jour de l'Omer. C'est bon? Il n'y a pas de problème?
Tout va bien.
Ok. On est comme ça que vendredi, on souhaite une refoua shelema à tous nos malades et un Shabbat shalom particulier pour les personnes âgées, isolées. Et nous avons évidemment une pensée émue et particulière pour nos frères en Israël. Je voudrais qu'on revienne là avec vous, M. Jourama, sur deux événements qui se sont passés jeudi et mardi avec les loulottes. Alors, les loulottes, c'est plutôt une idée séfarade, et pourtant, au fil des années, c'est devenu un vrai événement à Strasbourg pour toute la communauté. Vous y étiez, racontez-nous.
Alors, c'est pas spécialement séfarade. Il se trouve qu'à Strasbourg, ce sont de grandes familles séfarades qui organisent ces deux iloulottes. Et la iloula, surtout lorsqu'on parle des iloulottes de maîtres qui dépassent totalement le clivage, ou en tout cas idée de séparation du monde ashkénaze du monde séfarade. On est en train de célébrer deux grands maîtres qui sont des Tanaïm, donc à une époque où on n'a pas encore d'émergence du monde ashkénaze et séfarade, donc ça serait étonnant de parler de tradition séfarade pour la Hiloula. Ce sont des événements qui sont célébrés partout en Eretz Israël, que ce soit la Hiloula de Rabbi Meir Balanes, donc l'anniversaire du décès de Rabbi Meir Balanes, ou que ce soit celui de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ce sont deux grands événements qui sont célébrés par tout le pays. Et bah, il suffit de voir cette année les remous qui ont été provoqués par les limitations qui étaient imposées pour des raisons de sécurité par la police pour se rendre à Méron, qui accueille traditionnellement 100 000 personnes pour la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Lorsqu'on voit ce que ça a pu provoquer au niveau de la société, voilà, on comprend à quel point ces événements sont des événements d'une grande importance et auxquels les gens, en tout cas, attachent vraiment une importance et un caractère tout à fait particulier. À Strasbourg, on a la chance d'avoir des familles qui, d'année en année, nous font vivre ces événements. Mmh. Et ça a été encore une fois cette année une très très grande réussite en termes de, j'ai envie de dire, de fréquentation, d'affluence. Les gens sont vraiment venus honorer à la fois, bien sûr, les Tanaïs, mais également les familles qui nous invitaient. On a entendu vraiment de très belles paroles de Torah. Et c'est surtout, je pense, ça a été rappelé, c'est surtout un grand moment de rassemblement et d'unité communautaire. Mmh. Ça a été dit aussi bien jeudi soir que mardi soir. On a ici des familles qui sont appréciées de tous et qui arrivent vraiment à rassembler la communauté dans son sens le plus large. Et ça, pour moi, c'est peut-être la dimension la plus importante de cette soirée, c'est de réussir à réunir tout le monde et à nous réunir surtout autour d'un événement qui fait sens.
Vous êtes rendu cette semaine avec Maurice Dahan à Paris pour présenter vos condoléances à la famille du professeur Armand Avikassis, Zichron Levracha. Il y avait, je suppose, une émotion particulière.
Alors moi, je n'ai pas très bien connu le professeur Armand Avikassis, en tout cas je l'ai pas connu au même titre qu'a pu le connaître le président de la communauté Maurice Dahan, qui est un ancien de l'Ort et qui a partagé beaucoup de moments avec lui, que ce soit les cours, que ce soit les offices de Rosh Hashanah et de Kippour. Ça, madame Avikassis, nous en a parlé avec beaucoup d'émotion. Mais j'ai connu le professeur Armand Avikassis un peu plus tard, lors de mon passage à Toulouse, et nous sommes donc allés effectivement lui faire une visite de Shiva Express, on a fait l'aller-retour, et c'était bien évidemment un moment, en tout cas, qui a été très apprécié par la famille. Ce qui importe, c'est surtout le soutien et le réconfort qu'on peut apporter à une famille dans ces moments. Ça a été un départ qui a été assez inattendu, même si le professeur Avikassis, Baruch Hashem, était assez âgé, mais il est parti assez brutalement alors qu'il était en forme, qu'il s'apprêtait à présenter son dernier ouvrage. Et donc forcément, quand il y a ces départs un peu inattendus, on a vraiment encore plus besoin, je pense, de réconforter une famille qui ne s'est pas préparée à ce départ, à cette disparition. Ça a été surtout, en tout cas, l'occasion de rappeler beaucoup de souvenirs. Et pour la famille Abécassis, aussi bien pour sa femme que pour ses enfants, de nous dire à quel point ils sont restés très très attachés à cette communauté qui représente en réalité l'essentiel de leur vie, à la fois professionnelle, communautaire, affective.
Alors, il y a des bonnes nouvelles qu'on voulait annoncer, celles concernant Charles Elpiès et son épouse, qui ont accueilli une petite fille le soir de la Hiloula d'ailleurs, donc un grand Mazal Tov à Shaul et à son épouse.
Et là.
Et là, voilà, vous avez le prénom. Donc, Mazal Tov, au nom de toute la radio. On va noter tout de même que les parachutes Béa et Béotera, c'est les dernières parachutes du CR, du CFR de Vaïkra. Allez, on passe au résumé, monsieur le grand rabbin, sur ces deux parachutes.
Alors on va faire encore une fois un résumé peut-être un peu caricatural. Première paracha, la paracha de Béar. La paracha de Béar qui va nous parler d'un thème qui est celui de la Shemitah, c'est-à-dire les lois de la Jachère, cette fameuse année sabbatique qui concerne donc les terres agricoles en Israël. Et c'est donc principalement de cela dont il va être question dans cette paracha, en tout cas dans la première partie de la paracha. On va également parler du jubilé qui est directement lié aux lois qui concernent la Shemitah, puisque le jubilé est le couronnement de cette année de Shemitah. Donc il y a ici une correspondance qui est très 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 claire. On parlera par la suite du rachat des fêtes, mais Béar, de manière vraiment encore une fois caricaturale et schématique, c'est vraiment la paracha de la terre, et notamment donc la paracha de la Shemitah, quelque chose qui parle à tout le monde, même si en diaspora nous ne sommes pas concernés directement par ces lois, indirectement parce que nous recevons aussi des produits qui viennent d'Israël. Aujourd'hui, dans la mondialisation, les produits circulent, mais c'est quelque chose en tout cas qui parle à beaucoup de personnes. Et Bechukotai, là encore une fois, de manière aussi assez caricaturale, c'est la paracha à la fois des bénédictions et des malédictions, même si d'autres thèmes seront abordés en fin de paracha. C'est surtout une paracha dans laquelle on va nous exposer donc, un certain nombre de bénédictions qui sont la conséquence, on va voir en réalité la conséquence naturelle, on va dire, d'une implication et d'un engagement dans le chemin de la Torah, et à l'inverse, eh bien, des choses que l'on appelle, que l'on traduit, là encore une fois, je trouve assez mal par le mot de malédiction, et qui sont là aussi, en réalité, contrairement à ce qu'on imagine, et à l'idée qu'on s'en fait, un côté un petit peu miraculeux, surnaturel, une dimension un peu ésotérique, qui ne sont en réalité que des conséquences naturelles d'un choix qui serait différent du chemin dans lequel la Torah nous propose de nous engager.
On revient à la paracha Béar, qui est beaucoup des sujets concernant la propriété foncière. On va commencer par donc les sept années de l'année de la Shemitah, tous les sept ans, le Shabbat pour Hachem, comme c'est dit dans le texte, et précision particulière, on le verra par rapport au Yovel, tout est au singulier.
Oui, tout à fait, c'est important de le souligner, il y a déjà quelque chose qui marque. Je pense que c'est aussi un thème que vous vouliez évoquer, Jean, c'est que la Shemitah, a priori, ça ne concerne pas directement tout le monde, dans le sens où nous ne sommes pas tous agriculteurs. C'est-à-dire que même habitants d'Eretz Israël, on est d'une certaine manière directement concernés par la Shemitah, parce que nous allons consommer ces produits, donc on doit savoir ce que l'on peut consommer, ce que l'on ne peut pas consommer. Et bien évidemment que les interdictions de la Shemitah ne concernent pas simplement ceux qui travaillent la terre, mais également le produit de cette terre qui n'aurait pas été chômée, justement, et pour laquelle on n'aurait pas observé cette année de Jachère, le statut de ces produits et leur interdiction à la consommation, et ça concerne tout le monde. Le fait de s'adresser à chaque personne et au singulier, c'est peut-être une manière de faire prendre conscience à chacun que derrière ces lois de la Shemitah, qui s'adresse en tout premier lieu à l'agriculteur, en réalité, il y a un message qui s'adresse à chacun d'entre nous, et que l'on habite en Eretz Israël ou que l'on n'habite pas en Eretz Israël. Cette notion de propriété ou de non-propriété plutôt de absolue de l'homme et de la propriété absolue par Akadosh Baruch Hu, par Dieu, c'est quelque chose de fondamental finalement. C'est fondamental dans notre rapport à Dieu, c'est fondamental aussi dans notre rapport à l'homme, et c'est fondamental dans la manière dont nous allons appréhender le monde. Et il est donc important que la Torah puisse s'adresser à chacun d'entre nous, et c'est sans doute la raison pour laquelle elle le fait ici au singulier, parce que c'est finalement quelque chose duquel on aurait pu un peu se détacher en se disant, bah, au fond, ça ne nous concerne pas directement. Non, la Torah nous dit, peu importe, tu peux être agriculteur, tu peux être plombier ou tourneur-fraiseur ou médecin, que sais-je, tu es parfaitement concerné par le message qui se cache derrière cette Shemitah, et idem pour quelqu'un qui n'habite pas en Israël.
Je veux convaincre sur le principe, cette année, pendant cette année, on cultive la terre, on fait une pause, on la cultive pas, et encore après, il y a encore une année où, la récolte n'est pas appréciée. Deuxième partie, deuxième époque, c'est tous les 49 ans, le Yovel, qu'on appelle le Jubilé, et là, c'est au pluriel.
Tout à fait, Jean, vous avez parfaitement raison de le faire remarquer. Donc, je rappelle que le Yovel, comme vous l'avez indiqué, le couronnement aura été de cette année de Shemitah, et que son message s'inscrit dans la continuité du message de la Shemitah. Le Yovel a des lois particulières, puisque ce qui était possible, ou certaines exceptions, certains écarts qui étaient autorisés au moment de la Shemitah, où on rebat aussi les cartes, d'une certaine manière, ne seront pas autorisés au moment du Yovel. Donc il y a quelque chose vraiment de très très intéressant à vouloir s'inscrire à 100% dans le message qui est celui de la Shemitah, mais en proclamant certains principes de manière encore plus forte et de manière qui ne souffre d'aucune ambiguïté.
Mais ça a un rapport, la Shemitah et le Yovel.
Ça a un rapport, bien évidemment, ça a un rapport, puisqu'il va être question notamment de propriété, retour à la propriété originale. Je vous rappelle que, en ce qui concerne l'esclave, par exemple, enfin le Eved Ivri, dont c'est des questions ici, la possibilité est offerte à ce Eved Ivri, à cet esclave, qui a été, je vous le rappelle, vendu pour offrir ses services, pour pouvoir s'acquitter d'une dette qu'il a, qu'il n'est pas en mesure de payer. Il n'y a pas d'exploitation ici, il y a tout simplement une manière très digne pour cette personne de pouvoir s'acquitter d'une dette qu'elle n'est pas en mesure de faire. Eh bien, il y a un temps limité. Je vous rappelle qu'au moment de la Shemitah, il y a donc effectivement cette mise en jachère de la terre, mais il y a également... et c'est exactement le même message. Il y a également cette liberté qui est offerte au Eved. Donc on est exactement dans la même idée, vraiment dans l'idée de non-propriété absolue, de la même manière que le propriétaire de la terre va pouvoir un petit peu méditer sur cette idée, comme quoi cette terre dans laquelle il s'est tellement investi et dont il pense être le patron absolu, eh bien en réalité elle a un autre propriétaire qui le dépasse. La même chose pour celui qui possède ce Eved Ivri. Bien se dire qu'en réalité, au bout de 7 ans, il peut choisir de partir, de quitter son propriétaire, mais il a également la possibilité, si jamais il se sent bien chez son propriétaire, la possibilité de rester. Alors ça implique tout un cérémonial, ce ne sera pas possible au moment du Jubilé. Et c'est là que le Jubilé exprime quelque chose d'encore plus fort, c'est qu'au moment du Yovel, là il y a un retour absolu à la liberté, à la non-propriété. Et ça, c'est complètement indépendant du choix du Eved. C'est-à-dire, sache que même lorsque la Torah va t'offrir le choix de bien continuer à ignorer en quelque sorte cette possibilité de liberté, c'est pas un choix qui est illimité. Il y a une échéance à laquelle tu ne pourras pas échapper.
Alors, il y a beaucoup de 7 dans cette paracha, 7 jours, 7 fois 7, 49. C'est quoi la symbolique de ce chiffre, s'il y a une symbolique?
Il y a une symbolique très très forte. Le chiffre 7, Jean 7, c'est bien évidemment les 7 jours de la création, c'est la dimension du naturel, c'est pour ça que c'est un jour qui revient beaucoup. Et le 7, c'est bien sûr le chiffre du Shabbat, c'est que la Shemitah, elle est appelée Shabbat, c'est une notion qui va revenir à plusieurs reprises au début de cette paracha, le Shabbat de la terre, il y a le Shabbat de l'homme, il y a également le Shabbat de la terre, et le 7, c'est l'aboutissement de la semaine, on n'est pas dans la dimension encore du surnaturel, mais on est dans la dimension du 7e jour, c'est-à-dire de ce qui est sanctifié, exactement, c'est-à-dire ce qui est séparé des 6 autres jours de la semaine. Donc on est encore dans une dimension qui est une dimension qui appartient aussi clairement encore, on va dire, aux lois de ce monde, mais dans quelque chose qui est séparé, on va dire, du profane et séparé des autres jours. Donc on a un septième jour qui est séparé des six premiers jours, et on a également à ce titre-là une septième année qui est en quelque sorte distinguée par rapport aux six premières années.
Alors monsieur Grand Rabbin, on a parlé aussi du rachat des terres, mais il y a une petite nekouda, on va dire, concernant le rachat de la terre par des lévites. Les terres des lévites, c'est beaucoup plus compliqué que le reste.
Voilà, je vais pas, on a malheureusement très peu de temps, je ne vais pas rentrer dans les choses très très techniques, parce que pour étudier ce passage du rachat des terres, il faut vraiment se plonger dans la paracha, mais simplement dire un mot très très général sur le statut particulier des Lévis, qui contrairement aux autres tribus, gens comme vous le savez, n'ont pas reçu de territoire. Mmh. Ils ont reçu des villes qui sont réparties à travers le pays. Vous savez qu'il y a un statut particulier également pour ces villes, puisque c'est elles qui vont accueillir les personnes qui se sont rendues coupables d'un homicide involontaire. Donc parmi les villes de refuge, il y avait certaines villes qui ont été spécialement désignées comme villes de refuge, mais également les villes des Lévim qui étaient utilisées dans cet objectif. Et donc, bien sûr, ces villes qui sont le symbole même, j'ai envie de dire l'expression même du statut particulier qui est accordé aux Lévis, voilà, montre bien que les Lévim sont toujours dépendants finalement, en quelque sorte, du reste du peuple, et portent avec eux au quotidien, j'ai envie de dire, cette notion de non-propriété. Donc ça va forcément avoir aussi une influence sur la manière dont on va traiter le rachat de ces villes. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a toujours un but, il y a une visée derrière chacune de ces lois, et lorsque quelque chose pourrait déjà être intégré de par, j'ai envie de dire, le statut particulier qui est propre, on va dire, à une tribu pendant toute l'année, eh bien, on n'a pas forcément besoin d'appliquer les mêmes règles. Vous comprenez, parce qu'il y a des messages qui sont déjà intégrés de manière plus forte, peut-être, au travers de certaines tribus que d'autres.
Alors, vous l'avez dit tout à l'heure que le Yovel permet aux Évêques d'Ivry de sortir. On ne va pas rester trop longtemps avec cette paracha. Quand on lit toutes ces règles, c'est un peu des règles utopiques. Est-ce qu'on peut aller voir un agriculteur en lui disant voilà, 7 ans de travail, tu t'arrêtes 8 ans, la 8e année, tu t'arrêtes et tu reprends. Et, le mec va vous dire c'est pas possible, je suis obligé de gagner ma vie.
Alors, c'est pas utopique, Jean. Ce n'est pas utopique, ça pourrait paraître utopique. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas facile. Voilà, pour répondre à vos questions, ce n'est pas facile, effectivement, de respecter, lorsqu'on est un agriculteur, les lois de la Shemitah. Ce n'est pas facile, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ces lois sont exigées par la Torah et qu'elles font appel à un travail vraiment de emouna, un travail de confiance en Dieu qui est extrêmement important. Et si ce travail n'exigeait pas une certaine forme de sacrifice, j'ai envie de dire que cette loi de Shemitah n'aurait absolument pas d'intérêt, en tout cas qu'elle ne prendrait pas la place qu'elle occupe dans la Torah, qu'elle ne serait pas appelée un Shabbat. Alors, il y a effectivement des moyens aujourd'hui qui ont été trouvés pour continuer à respecter complètement la halakha. On n'a malheureusement pas le temps de les détailler. On fera un jour peut-être une émission consacrée à la Shemitah. Ce serait très intéressant d'ailleurs d'en faire une, ou peut-être même un cycle d'émissions lorsqu'on arrivera à la prochaine Shemitah. Ce sera vraiment intéressant de le faire.
Donc,
c'est dans quelques années. La prochaine Shemitah est en 2029, je crois. Ouais. Donc, on le fera à ce moment-là. Mais il y a des moyens donc, qui permettent en tout cas de faire les choses en souplesse, mais en respectant totalement les lois qui sont prescrites par la Torah. Et aujourd'hui encore, elles continuent de s'appliquer. Elles continuent de s'appliquer par tous les agriculteurs qui sont respectueux des lois de la Torah. Alors, malheureusement, ce n'est pas le cas de tous. C'est la raison pour laquelle il faut être très vigilant lors d'une année de Shemitah, nous allons recevoir les produits d'Israël et qu'ils vont se retrouver en rayon pour s'assurer que ces produits-là ne sont pas des produits interdits de la Shemitah. Mais en tout cas, il faut savoir que ces lois continuent à être appliquées et qu'elles sont vraiment, en bonne et due forme, vraiment une grande sanctification du nom divin, parce que dans notre société, qui n'est pas une société spécialement croyante, c'est vraiment ce qu'on appelle un grand Kiddush Hashem que de continuer à respecter ces lois.
On passe à la parasha de Berkutai. Et ressortir de la lecture stable, je veux dire, du passage de Berkutai, on a l'impression quand même que la Torah nous cherche à nous faire peur. Est-ce que c'est le but ou pas ?
Alors la Torah, Jean, n'est pas, à mon sens, la Torah n'est pas un épouvantail. La Torah n'est pas là pour nous effrayer, la Torah est là pour nous faire grandir et pour nous faire prendre nos responsabilités. Je pense que c'est un petit peu ça l'objectif de la Torah. La Torah nous rend plus responsables, elle nous rend plus grands, elle nous rend plus matures. Et donc, c'est ça l'objectif finalement, l'objectif de quelqu'un qui se confronte à la Torah.
Certains passages, c'est assez sévère comme loi.
La Torah vous parle de conséquences, finalement, de naturelles, comme je le disais tout à l'heure en introduction, voilà, de conséquences naturelles, finalement, de bons choix ou de mauvais choix qui pourraient être effectués par une personne. Et la Torah n'est pas là pour vous raconter un conte de fées, elle n'est pas là pour vous dire que vous inquiétez pas, dans tous les cas, voilà, tout ira bien, elle est là. Parfois, effectivement, oui, pour vous dire des choses d'une manière, on va dire, assez directe et assez crue. Mais ce n'est pas parce que la Torah parle parfois de manière assez crue et assez directe qu'elle vise uniquement à effrayer les personnes. On n'est pas là pour effrayer, on est là tout simplement, encore une fois, pour vous rendre responsable. Tous les gestes que nous effectuons ont des conséquences, et ces conséquences, voilà, on ne peut pas en faire abstraction, on ne peut pas faire jouer la politique de l'autruche. C'est quelque chose qui est totalement contre-productif, qui ne fait pas avancer, qui ne nous rend pas plus matures. C'est ça ce que la Torah ici cherche à faire de nous des gens matures. Des gens matures, c'est des gens qui regardent la réalité en face.
10 versets pour les bénédictions, tout le reste pour des malédictions. D'où vient ce déséquilibre ?
Ça a l'air très déséquilibré, effectivement. Alors, j'ai une première réponse qui est, vous allez me dire, c'est une réponse qui ne va pas vous satisfaire. Mais la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que ce qui compte, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité, bien sûr. Et donc, vous pouvez avoir quelque chose de très, très qualitatif, on va dire, en termes vraiment de puissance dans ces 10 bénédictions. Bien sûr, il faudra développer ce qu'on entend par la notion de bénédiction. Et quelque chose, on va dire, de beaucoup plus étalé en matière de malédiction, mais qui va s'équilibrer, on va dire, en termes de puissance. Donc, ce n'est pas le nombre, finalement, qui compte, mais véritablement la puissance. La deuxième réponse, elle va peut-être un peu plus vous parler. Je vous dis vraiment des choses qui, voilà, un peu en m'inspirant de nos maîtres, mais qui me passent par la tête. C'est que dans cette notion de responsabilité de l'homme dont je vous parlais, l'homme, vous savez, quand vous lui promettez des bonnes choses, il n'y a pas besoin de lui dire 10 fois. Vous m'avez dit 10, c'est pour ça que je reprends le chiffre de 10 en une fois. Si vous lui dites qu'il va lui arriver de bonnes choses, il a déjà compris, il a déjà intégré.
Ouais, c'est beaucoup plus.
Exactement. Quand vous commencez à parler, je dis non, mais en fait, ça, c'est pas pour moi, etc. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses que vous comprenez beaucoup plus facilement. C'est l'homme, lorsqu'il doit recevoir, c'est beaucoup plus facile pour lui de se manifester que lorsqu'il doit donner. C'est comme ça, c'est le fonctionnement naturel de l'homme. Et donc, c'est un peu, à mon avis, aussi ce dont il est question ici. Les bénédictions, c'est bon, vous lui dites une fois, il comprend. Pour les choses un peu plus complexes et aux conséquences un peu plus négatives, là, il y a parfois une nécessité de les répéter plusieurs fois pour être sûr qu'elles soient bien intégrées. Et il y a aussi une évolution qui est assez intéressante ici. Vous voyez que les choses vont un petit peu crescendo et qu'il y a plusieurs occasions qui sont données à l'homme de pouvoir se reprendre. Ça me rappelle un peu le schéma que nous avions vu lors de la paracha de Tazria Metzora, où lorsque Akadosh Baruch Hu souhaite faire réagir l'homme, hein, par rapport, on a dit, à un comportement qui serait dysfonctionnel dans la société, eh bien, va passer par plusieurs étapes. Il y a d'abord la maison, après les vêtements, après l'homme. Donc on voit que l'homme a la possibilité de s'amender, de prendre conscience à plusieurs reprises, et que s'il ne réagit pas, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même.
On l'a évoqué la semaine dernière, sur le thème de la Torah, qu'on a à la fin de cette page, la réprimande. Alors, on ne va pas en parler beaucoup, mais il faut faire attention, parce qu'il y a certaines règles qu'il faut respecter quand on fait une Torah, une réprimande. Quelle précaution il faut prendre?
Effectivement, alors là, en l'occurrence, on n'est pas en train de parler dans cette paracha de la règle de la réprimande que l'on fait à l'autre. Ouais. C'est plutôt ici, Akash Borou qui est en train de nous réprimander par rapport à ce qui pourrait nous arriver. Bien évidemment, même lorsque c'est Dieu qui fait une réprimande, Dieu, essayant toujours, dans la manière de nous parler, de se mettre à notre niveau, en tout cas un niveau que l'on est en mesure, nous, d'intégrer, l'homme doit s'inspirer aussi des comportements et de la manière d'agir d'Akadosh Baruch Hu. Donc on peut observer la manière dont Akadosh Baruch Hu fait les choses pour nous-mêmes s'inspirer dans notre manière de dire les choses. Donc déjà, c'est bien sûr dire les choses en s'étant assuré déjà de la réalité on va dire, de la situation, uh-huh. et toujours le faire aussi d'une manière qui soit, même si elle est parfois un peu, on va dire, directe ou froide, ou qu'elle, non, sans parler de quelque chose de strict, mais en tout cas, même si il faut dire les choses quand on fait une réprimande et que si on fait des circonvolutions, etc., on n'arrive pas toujours à nos fins, mais en tout cas, voilà, le faire d'une manière qui soit vraiment, qui puisse être intégrée par l'autre, c'est très, très, quelque chose de très, très important.
Alors, dans cette paracha, il y a
et le faire progressivement aussi, un petit peu comme on le voit avec Kadosh Baruch Hu, voilà, c'est important de faire les choses en étant dans la progression.
Alors, il y a un thème qui est important, enfin, que j'ai trouvé important, c'est celui du don au temple. Et nos maîtres aiment bien rajouter des petites explications, et je vous les donne. Ils nous rappellent fortement que ces dons sont facultatifs et accessoires. Ce sont des dons, évidemment, volontaires. Pourquoi on appuie sur ces deux termes que sont rappelés par les maîtres de volontaire et de facultatif?
Tout simplement parce que, et c'est ce qui a un peu interpellé nos maîtres, on aurait pu mettre ce passage, la coller au passage qui parle des dons obligatoires. Et vous savez qu'il y a un grand principe dans la Torah qui parfois bouscule un petit peu, que Gadol a metsuvé meosé, Mimi sheno metsuvé meosé. C'est-à-dire, je traduis, celui qui fait les choses parce qu'il en a l'obligation a plus de mérite et plus grand que celui qui fait les choses sans obligation. Ah bon. C'est une grande discussion dans le Talmud, et c'est une sugya, un passage qui est vraiment passionnant, parce qu'il défie un petit peu, j'ai envie de dire, la logique. Hein, si je pose la question à n'importe quelle personne, elle va avoir tendance spontanément à me répondre que une personne qui fait les choses sans en avoir l'obligation a plus de mérite, puisqu'elle n'en a pas l'obligation. Donc, par définition, cela montre qu'elle fait preuve ici d'un engagement qui est plus grand que la personne qui fait les choses par obligation. Voilà, sauf que, en réalité, lorsqu'on ne fait pas les choses par obligation, on a une liberté qui est beaucoup plus grande, et on a peut-être aussi moins de contraintes intérieures, on a moins d'yetzer hara, puisqu'on peut faire ou on peut ne pas faire. Et puis, si on n'a plus envie de faire, alors on n'est plus obligé de faire. L'obligation, elle impose une rigueur, une constance qui donne un mérite plus important à la chose. On ne peut pas vouloir justifier certaines choses par des choses qui sont facultatives. Je pense que c'est aussi un petit peu ça, ici, l'idée. C'est pour ça qu'on a mis ce passage-là à part, pour dire, parfois, un homme peut dire, écoutez, c'est vrai que je n'ai pas été forcément à la hauteur là-dessus, mais regardez, à côté de ça, je fais plein de choses qui sont... Non, non, c'est très, très bien. C'est exceptionnel, d'ailleurs, ça me permet de, dans un sujet qui n'a rien à voir, hein, de remercier tous nos bénévoles dans la communauté et toutes ces personnes. J'ai même pas de mots, en fait, pour les remercier et pour dire mon admiration. Et je pense notamment, je fais un petit clin d'œil à Gilles, on le remercie pas assez, Gilles Meyer, pour le travail exceptionnel qu'il fait avec la chaîne qu'il a créée. Et tous les membres qui travaillent avec lui sont tellement nombreux, on n'arrive pas à tous les citer, mais à des personnes qui donnent de leur temps, vraiment sans compter, pour des dizaines d'actions différentes dans la communauté. Voilà, c'est magnifique. Je reviens simplement à notre sujet pour dire que, en tout cas, dans le rapport au mitzvot, dans le rapport au commandement, dans le rapport à Dieu, il y a des choses facultatives qui sont très bien, qui ont beaucoup de valeur, qui sont appréciées par la Torah, mais qui, pour autant, ne nous dispensent pas de faire ce qui est obligatoire. On ne peut pas se cacher derrière ce qui est facultatif pour justifier un écart avec ce qui est obligatoire.
Alors, on va parler de la toute la fin de la parasha, où on nous annonce une deuxième dîme. C'est quoi la deuxième dîme?
L'horloge va exploser, là, Jean.
Oui, alors, la deuxième dîme...
Elle commence à fumer, là, d'ailleurs, déjà. Il y a de la fumée qui sort de la montre.
Oui, alors allons-y, la deuxième dîme, rapidement.
Le Maaser Sheni, avec plaisir. On peut en parler rapidement. Vous savez qu'il y a plusieurs types de prélèvements qui incombent à un agriculteur. C'est intéressant, on a commencé par parler des obligations de l'agriculteur, mais l'agriculteur n'a pas que des obligations... j'ai envie de dire, qui lui rappelle sa soumission à Dieu lors de la septième année, mais il en a en réalité tout le temps, tous les ans, et lorsque l'agriculteur va se confronter à sa récolte, il a un certain nombre de prélèvements à faire avant de pouvoir la vendre, avant de pouvoir en tirer profit. Il y a ce qu'on appelle Trouma Gdola, le premier prélèvement que l'agriculteur... Alors, la Torah ne donne pas de mesure exacte. Il y a plusieurs mesures qui sont appliquées, un cinquantième ou autre, mais la Torah ne donne pas de mesure exacte. Cette mesure-là, ce prélèvement-là va revenir au Cohen, il va être donné au Cohen. Ce qu'il reste de la récolte, une fois qu'on a fait ce premier prélèvement, va être prélevé par un dixième. ce qu'on appelle le Maaser Rishon. Et ce prélèvement-là, donc ce dixième de la récolte restante, va être donné, va être offert au Lévi.
Oui.
Et puis ce qui reste, vous allez me dire, ouais, ça commence déjà à retrécir un petit peu, mais ouais, ça fait partie du jeu. J'ai envie de dire, c'est ça aussi, accepter que finalement, le fruit de son travail, il y ait une nécessité de le partager avec ceux qui bossent pour nous, en quelque sorte aussi, hein, pour... on va dire pour la sainteté exactement du peuple, et que la Torah nous oblige à aussi à nourrir, eh bien, de donner ce deuxième prélèvement, donc ce Maaser Shin dont vous venez de parler, c'est encore un dixième, et enfin, à lui donner un statut particulier. Alors, ce deuxième prélèvement, une fois qu'on a donné au Lévi, la première, deuxième, troisième et cinquième année du cycle de la Shemitah, eh bien, ce prélèvement-là est un prélèvement qui a une kedusha particulière, donc on va dire une sainteté, un statut particulier. On ne pourra pas le manger n'importe où, il faudra l'emporter avec soi à Jérusalem et le consommer sur place, ou éventuellement transférer le statut particulier de cette récolte-là sur de l'argent que l'on emportera avec nous à Jérusalem pour là-bas y acheter des fruits que nous consommerons. Quatrième et sixième année, le Maaser Sheni est remplacé par le Maaser Ani, c'est-à-dire un don aux pauvres.
Dernière question que je voulais vous poser. On finit le Sefer de Vaïkra. S'il fallait le résumer en quelques axes, vous diriez quoi ?
Très difficile de résumer le Sefer Vaïkra en quelques axes, en tout cas en deux mots, puisque c'est un Sefer, vous l'avez vu, qui est contrairement au Sefer Bereshit, qui est un sefer narratif, contrairement au sefer Shemot, où là aussi on a une trame qui est très très claire. Hein. On est en Égypte, la sortie de l'esclavage dans un premier temps, puis la sortie d'Égypte et le don de la Torah. Le sefer Vaïkra, il aborde des sujets très très variés. Hein. On parle d'abord exclusivement des corbanotes, des sacrifices, et puis on va passer vraiment à d'autres sujets. Tazria Metzora, on a parlé complètement d'autre chose, le sujet de Lashon Hara, et puis on a parlé de la Kashrout dans Shemini, et puis après on va avoir plein de commandements et de mitzvot dans Achar Remod, dans Kedoshim, dans Emor, etc. Donc c'est un livre très vaste, mais dans lequel on a énormément de commandements, énormément de mitzvot, beaucoup plus en tout cas que ce que nous avons pu rencontrer dans le livre de Shemot ou dans celui de Bereshit. Et j'ai envie de dire que Vaïkra, je terminerai peut-être avec ça, c'est tout l'équilibre de la Torah. Donc on va retrouver ici des notions, que ce soit la Kashrout, que ce soit les notions de la Shonara, c'est-à-dire de médisance, etc., qui représentent véritablement l'équilibre de la Torah. Je crois que c'est vraiment ce que l'on peut dire. Là, dans Bamidbar, on rentre encore dans un autre sujet. Et en tout cas, vous le savez, lorsque nous terminons un livre de la Torah, Chazak, Chazak, Venit Chazak, le Shabbat porte un nom de Chazak, c'est-à-dire qu'on donne des forces, à la fois pour digérer ce que nous avons lu dans ce livre, mais également pour commencer le livre suivant. Ça nous rapproche aussi la parashat Bamidbar, bien évidemment, de la fête de Shavuot et du don de la Torah. Et que l'on puisse prendre toutes les forces qui sont nécessaires. Je pense que c'est aussi pour ça, c'est une des raisons pour laquelle nous avons un Shabbat Chazak vraiment juste avant Shavuot, parce qu'on a besoin de beaucoup de forces pour recevoir la Torah.
Vous faites la bonne transition. Merci monsieur le grand rabbin Avraham Harolvay, grand rabbin de Strasbourg et de sa région. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission consacrée principalement à Shavuot. Merci beaucoup à Thomas pour la réalisation technique. On vous dit Shabbat Shalom, à la semaine prochaine. Shabbos Kodesh, Shabbos Kodesh, you didn't prepare for Shabbos.